Les informations, Jean-Claude Toumba.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal de midi. En voici les titres. Le leader de l'UDPS s'adresse à ses militants tout à l'heure au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Le gouverneur de la ville a donné hier son accord pour la tenue de ce meeting. Nous aurons dans ce journal un de nos correspondants directs du stade Tata Raphaël. À Kindu, les conditions de détention sont difficiles à la prison de Kampene. Responsable de cette situation, un commandant de la police. Encore une fois, bonjour. À Kinshasa, le leader de l'UDPS s'adresse tout à l'heure à ses militants. Étienne Tshisekedi tient son meeting au stade Tata Raphaël. Après plusieurs discussions avec l'autorité de la ville, l'accord a finalement été donné pour le stade Tata Raphaël et non plus sur le boulevard Triomphal comme souhaité par l'UDPS. Les premiers éléments sur ce meeting de l'UDPS avec en direct du stade Tata Raphaël, Mimi Ngumba Mulongo.
C'est finalement au stade Tata Raphaël que se tient le meeting du président national de l'UDPS. En ce moment, des milliers de militants de ce parti sont déjà sur place, attendant l'arrivée de Tien Tshisekedi prévue pour 12h30. D'autres affluent vers les lieux, chantant, avec rameau et banderoles à la main. Sur des banderoles que brandissent les militants, on peut lire « L'UDPS dit oui aux élections libres, démocratiques et transparentes et non à la fraude électorale planifiée par la CEI. Doit également signaler que plusieurs responsables de différents partis de l'opposition politique sont sur place. Une autre chose à signaler, c'est le déploiement de policiers anti-EMS dans ces quartiers de la commune de Kalamo. On peut aussi le voir le long du boulevard Triomphal, lieu initialement annoncé pour la tenue de ce meeting. Depuis le stade Tata Raphaël, dans la commune de Kalamo, Mimi Ngumba Mulongo, Radio 4.
Toujours au sujet de l'UDPS, cette fois-ci à Mbujimayi, le chef de bureau de la MONUC à Mbujimayi, au centre de la rencontre entre le gouverneur de la province du Kassai-Oriental et les responsables provinciaux de l'UDPS, Kassai-Oriental, détaille sur cette rencontre avec Julien Nyamouni.
C'est pour décrisper, nier, baisser la tension politique qui existe au Kassai-Oriental depuis plusieurs mois que le chef de bureau de la MONUC a initié cette rencontre. Pour Mamadi Kouyaté, il s'agissait non seulement de restaurer le dialogue entre les deux parties, mais surtout évaluer la situation pour faire aboutir la transition dans la région. Le président fédéral de l'UDPS, Pierre Nsana, a dénoncé au nom de sa délégation les arrestations, les pillages, mais aussi les viols qui auraient été commises par les forces de l'ordre pendant toute la semaine qui a précédé le 30 juin. Selon lui, les autorités provinciales doivent rectifier les tirs si elles veulent poursuivre le dialogue. Au nombre des revendications, la libération de tous les détenus membres de l'UDPS, mais aussi l'indemnisation des familles éplorées avant de réclamer des sanctions contre tous les éléments de force de l'ordre qui se seront rendus coupables des exactions contre l'UDPS. Pour sa part, Patrick Balouba, vice-gouverneur en charge des questions politiques et administratives, a pris acte de revendication de l'UDPS. Il a pris également l'engagement de transmettre leurs doléances au comité provincial de sécurité avant de faire quelques observations, notamment celles qui a trait à la responsabilité politique des dirigeants du parti d'Étienne Tshisekedi. Il a aussi souligné le décalage entre les discours officiels de l'UDPS, celui de la non-violence et la pratique sur le terrain lors de la moindre manifestation. Reste que cette volonté politique soit maintenue pour faire triompher la démocratie. Julien Nyamouini, Mbujimayi, Radio Okapi.
Quittons le pays pour les Pays-Bas. Fin hier des audiences dans l'affaire République démocratique du Congo contre Rwanda à la Cour internationale de la justice de la Haye aux Pays-Bas. Le verdict de l'affaire qui oppose depuis bientôt 5 ans les deux pays se trouve désormais entre les mains de cette institution chargée de régler les différends entre États. Elle va devoir statuer s'il est compétent de se saisir du dossier relatif aux activités sur le sol congolais. Reportage depuis la Haye avec Paul Madidi.
Durant toute les plaidoiries démarrées depuis lundi, la partie rwandaise a tenté de prouver que la Cour n'est pas compétente dans cette affaire. Parmi les thèses soutenues par le Rwanda à cet effet, la principale est qu'il n'y a jamais eu consentement entre les deux pays pour amener les différends devant la justice internationale. Dans sa contre-attaque, la RDC a évoqué la Convention de Genève sur les génocides et les traités signés avec le Rwanda et impliquant la Cour internationale de justice. Toute cette démarche tendait à démontrer la reconnaissance par le Rwanda de la compétence de la Cour internationale de justice. la partie congolaise représentée par M. Ntumba Luaba, secrétaire général du gouvernement, et le professeur Akele, qu'accompagnait le ministre de la Justice Kissimba Ngoy, a terminé sa plaidoirie par une phrase qui sonnait comme une interpellation. Ne faites pas que la victime d'hier devienne les génocidaires d'aujourd'hui. Au juge maintenant de trancher. Paul Madidi, à La Haye, aux Pays-Bas, Radio Okapi.
Quittons La Haye, retournons au pays par Kindu. Il ne fait pas beau vivre au cachot de Kampene, 147 km au sud-est de Kindu. Les conditions de détention sont difficiles dans ce cachot. Les prévenus y sont entassés. À la base de cette situation, le commandant de police Kanku Tshibola. Plus de détails avec Gabriel Ouaménia.
3 mètres carrés, c'est la surface de la cellule utilisée par la police pour garder les prévenus à Kampene. Selon les témoignages sur place, ces cachots mal aérés reçoivent des dizaines de personnes, tous sexes confondus, toutes attachées et liées par un cordon. Pas de toilettes. Témoignage d'un prisonnier. Moi, je suis un prisonnier de Kampene. On nous entasse, les hommes et les femmes, tous liés dans une même cellule. Un jour, un prisonnier est tombé évanoui. Nous avions forcé la porte et c'est alors qu'on est venu les transporter à l'hôpital. Toujours selon les mêmes témoignages, il est difficile à Kampene de distinguer un prévenu d'un détenu. Tous purgent leur peine dans la même cellule. À cause de l'exécuté du cachot, d'autres prévenus sont utilisés comme de la main-d'œuvre dans les résidences de certains officiers. Contacté sur cette situation, l'inspecteur provincial de la police, le général Dioka, dit qu'il va réprimander tout officier accusé de tracasserie dans la province d'Imaniema et promet le remplacement des responsables coupables de la police à Kampene. Kindu, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
En Mbandaka, un vice-président remplace un autre. Après Zaïdi Ngoma, le vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu hier dans le chef-lieu de la province de l'Équateur. Il était à la tête d'une délégation de députés du MLC, mouvement de libération du Congo. Objectif du voyage, le réconfort moral et l'assistance aux familles des victimes. Le point avec Dominique Wolonga, Munga Mpene.
Après son collègue Arthur Zaïdi Ngoma mercredi, Jean-Pierre Bemba Ngombo, vice-président de la République en charge des questions économiques et financières, est venu vendredi en Mbandaka réconforter les blessés et les familles des victimes de l'insurrection de dimanche dernier. Il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées par des pillages. Aux hôpitaux où sont soignés les blessés, il a remis des groupes électrogènes après avoir rendu visite aux malades. L'hôpital général de référence de Bolingué, qui a été mis à sac par les insurgés, a bénéficié en plus de 50 matelas. Jean-Pierre Bemba a pris en charge les transferts vers Kinshasa des 5 blessés graves pour des soins appropriés. Le gouvernement, a-t-il dit, attend les rapports de tous les dégâts causés par les insurgés pour indemniser les victimes des pillages. Le vice-président de la République a saisi cette occasion pour condamner les actes posés par les insurgés, des actes qu'il a qualifiés de barbares. Il conduisait une forte délégation des députés MLC et de plusieurs autres parlementaires ressortissants de l'Équateur. Mbandaka, Dominique Wolombi Mongapangé, Radio Okapi.
Vous avez compris qu'il s'agit bien de Dominique Wolombi. De Mbandaka, allons à Goma, dans le Nord Kivu. L'Observatoire volcanologique de Goma estime qu'il pourrait y avoir éruption dans les mois à venir. Selon cet observatoire, l'activité du volcan Nyiragongo est normale. En revanche, des activités séismiques ont été enregistrées ces dernières semaines autour du volcan Nyamlagira, ce qui laisse prévoir une nouvelle éruption de ce volcan d'ici 4 à 6 mois. Mais selon l'observatoire, cela ne présenterait aucun danger pour la population. On écoute Kasereka Mayinda, responsable scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Il est au micro de Bernadine Diambou.
L'état de Nyiragongo est normal. Il y a un lac de lave actif dans le volcan et un panache de gaz permanent. La situation au niveau des fissures au sud du volcan dans les zones habitées ne présente aucune anomalie. Donc pour les Nyiragongo, la situation est calme. Pour les Nyamulagira, ces derniers jours, nous observons une activité sismique intense. Quand nous comparons les données anciennes, donc les deux éruptions qui viennent de s'écouler du 25 juillet 2002 et du 8 mai 2004, nous sommes convaincus que dans les mois qui viennent, Nyamulagira va entrer en éruption. Mais nous voulons dire à la population que l'éruption de Nyamulagira ne menace pas directement les zones habitées. Tout se dirige dans le parc national de Virunga.
Plus à l'ouest du pays, à Matadi, un dîner-débat a été organisé jeudi dernier à l'occasion des 2 ans du guichet unique du port de Matadi. Au cours de la soirée, l'orateur principal, le directeur provincial de l'OFIDA, M. Mwepu, a tenu à faire un bilan et a donné les perspectives d'avenir du guichet unique. Selon lui, le guichet unique a permis de réduire sensiblement le délai de dédouanement. Qui ont participé à ce dîner débat, le gouverneur de la province du Bas-Congo, Tassadine Toumba, ainsi que les différents partenaires de l'OFIDA. On écoute à ce sujet Nathalie Moutieba.
Inauguré le 27 juin 2003, le guichet unique du port de Matadi a eu pour objectif de faciliter les procédures, optimiser et mobiliser les recettes. Selon le directeur provincial de l'Office de douane et assises et orateur principal, M. Mwepu, le guichet unique a réussi à remplir ses objectifs. Il a permis au départ de rassembler tous les partenaires, à savoir l'OCC, l'ONATRA, le GFRAM ainsi que les banques. Informatiser les données grâce à un logiciel appelé Sidonia, traduisé système douanier automatisé, connaître avec précision ce qui est stocké dans les magasins et comptabiliser les marchandises qui rentrent et qui sortent. Il y a 2 ans, il fallait plusieurs factures provenant de plusieurs services. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule facture sur laquelle sont reprises les prestations de tous les services. En ce qui concerne la mobilisation des recettes, le guichet unique a permis aux différents partenaires de générer un peu plus de 100% de recettes. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, l'OFIDA souhaite faciliter encore plus ses procédures en réduisant le délai de la délivrance du laissez-suivre et l'harmonisation des procédures. Prenant la parole à son tour, le gouverneur de la province du Bas-Congo, Tassadine Toumba, a exprimé ses inquiétudes sur les faiblesses de ce guichet et aussi les punais problèmes de la fraude. Sur ce dernier point, le directeur de province a déclaré que les postes jadis exercés ont été récupérés, ceci pour apaiser les esprits inquiets qui craignaient pour leur poste. C'est ainsi qu'une brigade douanière a été mise sur pied pour lutter contre la contrebande, la fraude, en se basant sur des techniques modernes. Matadi, Nathalie Mouteba, Radio Okapi.
Retour dans la capitale pour parler de la régie de distribution d'eau. La régie des eaux a démarré au début de la semaine dernière les travaux de pose de grosses canalisations d'eau sur le boulevard Triomphal et l'avenue de la Victoire à Kinshasa. Ces travaux se poursuivront dans d'autres grandes artères de la ville. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réhabilitation du réseau de distribution pour améliorer la desserte d'eau. L'administrateur directeur technique de la régie des eaux, M. Anziama Kamuzimbami, était reçu dans notre studio par Nadine Foula.
Vous avez vu devant le stade de Marty des tuyaux, des gros tuyaux qui sont entreposés. Et bientôt, nous allons commencer à les atterrir. On a même déjà commencé à côté de l'église de Centenaire. On est en train de poser des tuyaux. Et ces travaux vont se poursuivre également au niveau de la commune de Makala, au niveau de la commune de Lemba, vers la commune de Mungafula. Donc nous allons poser des grosses canalisations à partir de notre station de repopage de Yolo pour monter vers Rigini. Et de Rigini, nous allons poser des canalisations pour alimenter le campus Kindele, donc Kimwenza. Il y aura une autre canalisation que nous allons poser sur la route qui va vers Matadi, donc pour alimenter Mongafula. Nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas de perturbations. On va s'arranger pour qu'il y ait une seule journée pour faire les jonctions dans les deux extrémités. Le désagrément ne sera pas grand. Il y aura des coupures, mais pas de longue durée.
En dehors de nos frontières, à Arusha, le procès de l'abbé Atana Seromba, premier prêtre catholique jugé par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, doit reprendre le 31 octobre avec la citation des témoins de la défense selon les sources officielles citées par l'AFP. Poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité, l'abbé Seromba, de l'ethnie majoritaire Hutu, est notamment accusé d'avoir ordonné à un conducteur de bulldozer de détruire son église de Nyange à l'ouest du Rwanda, où les fidèles Tutsi avaient trouvé refuge. À Bujumbura, l'élection au Burundi des administrateurs de communes, c'est l'équivalent des maires, s'est déroulée hier. C'est la première fois depuis l'indépendance de ce pays d'Afrique centrale en 1962. Les administrateurs sont élus par les conseillers communaux qui ont été élus au suffrage universel direct le 30 juin.